Aujourd'hui, nous accueillons dans nos locaux la jeune journaliste et fondatrice de Diva Management, Lola Levent, chef de file d'un mouvement pour la parité et la visibilité des femmes dans l'industrie musicale.
Le Red Bulletin.
Bonjour Lola Levent, tu te qualifies de digital poète sur les réseaux sociaux. Tu es aussi journaliste musique et à l'origine de Diva Management, une agence de consulting, d'accompagnement d'artistes et de création de contenu que tu as créé en 2020 à l'ère de MeToo. Diva, c'est aussi un travail de visibilité qui questionne la norme dans l'industrie musicale et notamment la place des femmes. Merci d'être avec moi aujourd'hui.
Merci à toi, salut.
Comme beaucoup de projets, aujourd'hui, tout a commencé avec un compte Instagram qui avait pour objectif de questionner notre approche de la musique et de sensibiliser les publics tout en alertant sur les problèmes sexistes qui persistent dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de la création de ce compte ?
Ouais, carrément. Déjà, je suis trop contente parce que tu as tout compris à mon projet. Et souvent, il faut que je l'explique trois fois pour que les gens captent que c'est un projet hybride qui a une histoire assez sinueuse. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'avais une expérience en label et en médias, ainsi qu'en tant que manager en 2020. Et j'avais vu des choses, entendu des choses et on m'avait raconté des choses. Et tout ça me paraissait assez effroyable. Et c'est vrai que ma déformation de journaliste me portait à croire qu'il fallait absolument faire comprendre aux gens que... le milieu de la musique, c'était pas juste strass et paillettes, c'était aussi dangereux pour les femmes, notamment les jeunes femmes qui arrivent dans le milieu, et qu'on pouvait pas fermer les yeux sur ça, parce que dans la création, en fait, dans le processus créatif et dans le business, il y avait beaucoup d'obstacles et de bâtons qu'on met dans les roues des femmes, en fait. Et donc, en fait, ça sous-entend que... bah, créer, c'est aux dépens de certaines personnes, certaines minorités dans le milieu, et ça, pour moi, c'était inconcevable, quoi, de devoir travailler dans ces conditions. Et donc, j'étais assise sur mon canapé et j'ai créé ce compte du jour au lendemain.
Un compte, du coup, qui t'enrichit personnellement et qui t'aide à comprendre un peu les ficelles de cette industrie et qui aussi met un peu, on va dire, en péril ta carrière de journaliste puisque tu t'affiches clairement. Comment on fait pour vivre au quotidien quand on reçoit des backlash ou ce genre de, on va dire, de messages très sympathiques?
Alors, c'est intéressant pour l'histoire parce que je recevais beaucoup plus de backlash quand je taisais mon féminisme. Donc, dans les trois années qui ont précédé la création de Diva, j'ai été souvent harcelée sur Twitter, sur Instagram, par rapport à mes propos journalistiques ou à certains propos féministes ou juste à des prises de parole parce que je suis une meuf et que voilà, ça venait me casser les couilles. Et par contre, quand j'ai créé Diva, les gens ont compris que... il y avait une légitimité derrière mes idées, quoi. Que c'était pas juste moi qui balançais des idées en l'air, mais plutôt qu'il y avait une assise statistique chiffrée, qu'il y avait des témoignages, et que en fait tout ce que moi je faisais passer comme message dans mes articles ou dans mes prises de position, bah en fait c'était pas sorti nulle part. Et donc en réalité j'ai eu moins de problèmes avec des retours négatifs à partir du moment où j'ai créé ce compte. Mais évidemment, en fait, le gros problème quand on est ouvertement politisé comme ça, c'est plutôt les gens qui essaient de s'acoquiner avec nous pour de mauvaises raisons et pour leur image, pour un peu montrer patte blanche. Donc le problème se renverse un peu.
T'as l'impression que le fait d'être une femme et l'âge aussi, surtout dans un milieu comme on va dire le monde du hip-hop et notamment le rap, ton genre de prédilection avant tout, ça joue aussi?
Ça joue tellement. Bah oui, moi, je suis arrivée dans la musique, j'avais 22 ans, pour ne pas dire 16 ans, parce que je faisais déjà des bails dans la musique quand j'étais au lycée, mais c'est hyper violent, en fait, parce que, évidemment, moi, j'ai appris mon métier en direct, enfin, mes métiers même, et donc, on cherche des mentors, on cherche des conseils, donc, on se repose énormément sur l'apprentissage avec les gens qu'on va rencontrer, et quand, en fait, on se rend compte que ces gens-là, ces hommes-là, en l'occurrence, c'est pas nos grands frères, c'est pas nos coachs, quoi. C'est des mecs qui veulent beaucoup plus et qui sont prêts à arrêter de te calculer parce qu'ils ont pas réussi à te faire dormir chez eux, quoi. C'est dur, quoi, parce qu'on se sent assez seul. Et je pense que en grandissant, déjà les chiffres le montrent, on se fait moins harceler. Hein. C'est le jeune âge qui est le plus vulnérable, même s'il y a d'autres problèmes qui se dessinent avec le temps. Mais en tout cas, en grandissant et en se professionnalisant, on se constitue un entourage qui est un peu plus solide. Donc moi, je connais beaucoup plus de femmes dans le milieu sur lesquelles m'appuyer quand j'ai un problème et auprès desquelles me faire conseiller. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais entourée d'hommes et je ne me rendais pas compte à quel point c'était risqué.
Parmi ces femmes, on peut retrouver Mekolo Biligui et Wafa Mamesh. Et ensemble, au dernier événement que tu as organisé à la Petite Halle de la Villette, vous constatez que si vous n'êtes pas à l'origine des événements ou de la curation et que vous n'êtes pas invité au minimum à deux ou à trois sur les plateaux de radio ou de télé, vous n'avez pas l'opportunité de vous exprimer de manière saine et bienveillante. Penses-tu que l'environnement du rap, qu'on appelle le rap jeu, le rap game en anglais, favorise les inégalités et les violences plus que d'autres genres ?
Alors, il y avait aussi Manu Carreños ce soir-là, je préfère le dire parce que c'est aussi une de mes grandes sœurs dans le milieu.
Yes.
Et qui m'a aidée à comprendre beaucoup de choses. Alors, ma première réponse sur la question des spécificités du genre musical et des violences, c'est de dire que je ne pense pas qu'en peinture, on dirait qu'un peintre cubiste est potentiellement davantage un agresseur qu'un peintre réaliste ou l'inverse. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens se sont mis en tête de penser que le rap était un genre... pas que le rap était un genre plus violent, mais plutôt que le milieu du rap était un milieu plus violent que les autres milieux. On n'a aucune statistique qui le prouve. Après, c'est très difficile à étudier. Maintenant, moi, j'ai entendu des choses et vu des choses en bossant pour des maisons de disques qui font de la pop, de la chanson française, et c'était pas de tout repos. pour faire un euphémisme. Et donc après, je pense que, c'est pas les mêmes rapports de force, quoi, parce que dans le rap, il y a quelque chose de salvateur, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et qui dit jeunes dit des personnes qui vont plus avoir tendance à être ouvertes sur ces sujets-là, sur la question des violences, et qui ont envie de remettre en question le système. Là où, dans la chanson française, ou dans les musiques électroniques ou rock, par exemple, ben, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas vraiment envie de dégarpir. Donc on va trouver d'autres obstacles. Hein. Enfin, je veux dire, tous les genres musicaux ont leur microcosme avec ces codes. Mais je crois qu'ils ont tous des reproches à se faire, en tout cas sur les rapports de domination homme-femme.
En parallèle de ton activité journalistique, Diva poursuit son chemin et tu deviens en quelque sorte la porte-parole d'une nouvelle génération d'artistes femmes. Dans ton portefeuille, on trouve à la fois des chanteuses et des rappeuses et on navigue entre le rap, le R&B et la pop grâce à des artistes comme Johanna, Lazuli, Yanis, Angie, Lou Control ou encore Neslas, si je le prononce correctement.
Ouais, alors Yanis, on ne travaille pas encore ensemble, on a envie de faire des choses ensemble, mais je l'ai invité à mon événement parce que c'est quelqu'un de très spécial pour moi. J'écoute sa musique depuis que j'ai 14 ans et on s'est rencontrés il y a un mois et on s'est rendu compte qu'on avait la même vision politique pour ce milieu et les mêmes ambitions artistiques et les mêmes envies de changement. Donc ça a été une fulgurance, quoi, cette rencontre, ça a été très fort. Et après, je ne sais pas exactement quelle est la question, mais les autres, c'est toutes mes amours.
La question, c'est comment tu choisis les artistes que tu représentes ?
Ah, on ne pose jamais cette question, c'est cool. Alors moi, ce qui m'importe, c'est une certaine dimension, un certain goût de l'innovation. Donc j'aime bien penser que mes artistes font la musique de demain et qu'elles font des... Elles ont un travail assez hybride qui se joue des codes tout en ayant un univers visuel et ou un rapport au texte très fort. Donc il y a vraiment le premier échange, il est musical, il est esthétique, il est artistique. Et évidemment, il se trouve que les femmes avec qui je travaille, elle et moi, on a une vision commune pour l'avenir et une façon aussi de travailler commune, ou alors qu'on cherche à mettre au diapason. Et donc voilà, c'est un mélange d'entente, de feeling évidemment, et puis de rapport à l'art hyper similaire. Et puis elles font, en fait, pour résumer, la musique que j'ai toujours rêvé d'écouter.
Comment tu décrirais cette vision commune que vous partagez tous chez Diva ?
C'est intéressant. Je pense qu'on a envie de faire les choses par nous-mêmes. On n'a pas envie de prouver. Ça ne nous intéresse pas, mais par contre, on a quand même envie de s'exprimer sur beaucoup de choses sans... Je pense qu'on a une façon de penser assez assez basé sur l'idée de la tabula rasa, quoi. On n'est pas en train de se dire « Ah, mais ça, ça a été fait, ça, ça a été dit. Le monde, il est comme ça, donc il faut se plier aux conditions préexistantes du jeu, quoi. Et on fait un peu comme on veut. En tout cas, on essaye. Et après, voilà, il faut toujours essayer de se mêler à certaines règles pour que la tambouille, elle fonctionne. Mais je pense qu'il y a un peu... Le point de départ, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et puis après, on se pose les questions fâcheuses. Mais voilà, il y a une espèce d'élan commun, d'audace. Et puis voilà, on a envie d'être ensemble. Et encore une fois, de faire ce que les autres font pas. Enfin, ce qu'on aimerait que les autres fassent, mais on le fait pour nous.
On est aujourd'hui en 2022. Donc on est clairement dans une ère post-MeToo. Le travail qui s'organise, qui s'imagine, qui se crée autour d'une artiste, sachant que les artistes qui sont chez Diva sont toutes très différentes les unes des autres, comment on trouve le juste milieu entre leurs convictions, leurs valeurs et l'image qu'elles renvoient sur les réseaux sociaux versus l'image qu'elles renvoient dans les médias lors de leur prise de parole officielle?
Ben, on y travaille, c'est assez facile dans le sens où on fait en sorte que les éléments sur lesquels les médias s'appuient soient très clairs. Après, tu connais, c'est pas toujours le résultat, il est pas toujours comme on veut, parfois on se fait mal comprendre. Et ça me fait penser à une interview de Christiane de Queens où elle disait que en fait, le gros problème, c'est que c'est les artistes qui éduquent les journalistes. Et du coup, en fait, eux-mêmes n'ont pas le vocabulaire que nous, on essaye d'utiliser. Y a plein de notions qu'ils n'ont pas. Je pense qu'à l'époque, elle parlait d'intersectionnalité ou quelque chose comme ça. Donc le problème, il est là, c'est que nous, on peut faire tous les efforts du monde. Si en face, il n'y a pas d'efforts, évidemment, en termes d'image et de discours, il y aura des choses qui ne seront pas ce qu'on veut, pas ce qu'on dit, pas ce qu'on pense. Après, moi, j'ai eu la casquette et je l'ai encore un peu de journaliste, donc je fais beaucoup de training avec mes artistes et je leur explique que tout ne se joue pas dans les médias. Elles sont leurs propres médias et s'il y a quoi que ce soit qu'elles ont envie de dire, elles pourront le dire. Donc j'essaye de faire en sorte qu'on ne se sente pas dominé par ces structures-là, quoi.
Le plus dur, du coup, ce serait quoi?
Avec l'image.
Avec l'image, avec l'accompagnement de l'artiste en elle-même.
Je pense que là, en ce moment, ce qui est vraiment un peu compliqué, c'est de faire la différence entre... Il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a cette espèce de fantasme de la rappeuse qui est extrêmement répandue et qui du coup permet de mettre en valeur certaines figures, ça vaut pour mes artistes, mais qui parfois me paraît assez, pas mal intentionnée, mais mal éduquée peut-être. Et donc je sais pas comment dire, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de case que tout le monde essaie de remplir, et moi j'essaie de communiquer sur le fait que mes artistes ne sont pas là pour remplir pour correspondre à des fantasmes ou remplir des cases. Puis dans l'autre sens, ça pénalise aussi sur la pop ou la chanson française, par exemple, on appelle aussi les artistes des rappeuses. Et donc, il y a une espèce de culte qui est en train de se créer. Et donc, là-dedans, les artistes, elles doivent essayer de défendre le mot artiste, de défendre l'hybridité de leur travail, de défendre le fait que quand on fait de la musique, on est influencé par beaucoup de choses. Et évidemment qu'on a une certaine pensée politique et une certaine éthique, mais elles ont aussi envie de parler de musique. Et donc là, elles sont toujours un peu ballottées entre des questions politiques, féministes, et en dernier lieu, des questions purement artistiques. Et donc, en fonction d'à qui tu t'adresses, tu vas avoir des artistes parmi les miennes qui ont plus ou moins envie d'aborder certains sujets.
T'as des exemples ?
Ouais, c'est un média qui vient voir mes artistes et en gros qui a deux doigts de leur demander pour qui elles vont voter. Et en gros, les questions, c'est soit tu penses quoi de Diam, soit le féminisme, le rap, la musique, machin. Et moi, je trouve que c'est des sujets importants. Après, les pauvres, elles subissent le fait que moi, j'ai un parcours de communication autour de ces questions-là. Et donc, du coup, on leur pose les mêmes questions. Mais elles ont envie de parler d'art aussi. Elles ont envie qu'on leur pose des questions sur leurs textes, sur leur musique, sur leurs clips, sur leur vision du monde. Et c'est pas toujours le cas, quoi. Parfois, c'est et il y a des médias qui préécrivent presque des réponses et ça, c'est un gros problème. Mais voilà, moi, je me dis toujours qu'on est plus fort que les médias aujourd'hui. En un tweet, c'est plié. Donc, si jamais vous voulez vous jouer de nous, faites attention.
Depuis que tu as lancé Diva Management, qui au final, en fin de compte, presque comme une famille, est-ce que tu as constaté des réels changements dans l'industrie, est-ce que tu as l'impression qu'on a évolué au moins un petit peu ?
C'est dur à dire parce que moi, j'ai créé ce projet en poste, enfin pendant le confinement, il me semble, et ou post-confinement. Et donc, ça correspond aussi à une période où je me suis vachement écartée du milieu parce que. Parce que c'était trop violent pour moi, en fait. Et donc, il y a deux choses. Il y a le fait que, comme je me suis éloignée, j'ai pas vraiment accès, en fait, au changement, en tout cas en direct. Et par ailleurs, je dis souvent que moi, j'ai un prisme déformant parce que, en fait, comme je suis concernée par ces questions et comme je les évoque beaucoup et que c'est devenu un peu mon sujet, en fait, on m'en parle beaucoup, on me questionne beaucoup là-dessus. Ça veut pas dire que c'est le cas ailleurs, enfin je sais pas comment dire, mais en gros, moi on parle beaucoup de féminisme et de changement dans le milieu, mais en fait c'est parce que c'est mon sujet, mais qu'en est-il ailleurs et je pense que c'est pas des questions qui se posent tout le temps partout non plus. Voilà, moi c'est dans mes conversations quotidiennes, mais les trois quarts des gens, c'est pas dans leurs conversations quotidiennes. Et le bon exemple que j'ai, c'est que je devais faire une conférence au MAMA l'année dernière sur les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie de la musique. Et en fait, je me disais, tiens, ça va être marrant après 2 ans d'arriver et puis de parler aux pros, à tous les mecs, notamment cis, blancs, hétéros, et de leur faire un petit pitch sur ça. Je trouvais ça assez farfelu quoi, comme projet, mais je me suis dit, ok, let's go. Et en fait, que nenni, il n'y avait que des femmes et il n'y avait que des jeunes femmes dans la salle. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de dire, c'est que moi, je n'ai pas accès... il y a un microcosme autour de moi de femmes qui ont envie de ce changement et... Je suis pas sûre que tout le monde se sente concerné par ça, loin de là. Donc, est-ce que ça a changé ? Je sais pas, il y a eu des choses, il y a beaucoup d'initiatives féministes maintenant. Est-ce qu'elles ont... Où en est-on de transformer le système et de faire bouger les choses structurellement ? Voilà, je dirais pas non plus direct dans un enthousiasme... Voilà quoi. voilà.
Tu restes quand même perplexe sur cette question de changement et d'évolution. Peut-être que je te reposerai la question dans 5 ou dans 10 ans.
Grave.
Et qu'on aura quelque chose de positif à dire à ce sujet-là. En attendant, je voudrais te remercier d'être venue.
Merci à toi.
Et à très bientôt, Lola.
Bisous tout le monde.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté, et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.